l'Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Et en ce vendredi, avec toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, notre actualité est entièrement composée de ce qu'offrent justement les rendez-vous de l'Histoire 2016 à Blois, où nous nous trouvons. En partenariat avec le journal La Croix, qui rend compte de ses rendez-vous de l'Histoire dans ses pages et est présent ici à Blois avec une rencontre entre François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix, et Régis Debray demain à 14h à la Maison de la Magie. Nous vous proposons ce matin des échos nombreux de la variété de ce qui se passe ici. Dans un instant, avec Anaïs Quien, nous recevrons l'éditrice Chloé Pathé et l'historien Hervé Mazurel qui participent à une aventure éditoriale, la création d'une nouvelle revue de sciences sociales Sensibilité. Puis Séverine Yattard nous présentera le nouveau feuilleton de la Fabrique de l'Histoire qui s'attachera à raconter, et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens dans cette salle, comment on enseigne l'histoire du primaire à la terminale dans notre beau pays. Et puis le directeur en charge des archives de France nous présentera la grande opération qui sera lancée tout à l'heure dans cette matinée, une nouvelle grande collecte d'archives personnelles et familiales de la manière dont elle a été mise en œuvre il y a 2 ans pour le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Et pour finir, Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire nous présentera quelques-unes des propositions des rendez-vous de l'histoire auxquelles il a assisté hier. Mais pour commencer, vous savez qu'en cette année électorale, chaque vendredi matin, nous proposons à une historienne ou à un historien de nous raconter une histoire de vote et d'élection, un petit précis d'histoire à l'usage des candidats. Et ce matin, ici à Blois, François-Xavier Fauvel, historien de l'Afrique et plus particulièrement de l'Afrique du Sud, nous raconte un vote important, un vote vieux de 22 ans.
105. Allez-y madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Pierre Destin.
Vous comptez les deux registres.
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles?
Non.
Oui, mais pour les recompter après.
Ça,
on laisse un et on met plus lourd. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Bonjour François-Xavier Fauvel.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir accepté de participer à cette opération qui dure toute l'année dans la Fabrique de l'Histoire, à savoir demander à un historien ou une historienne de nous raconter un vote qu'il a vécu ou qu'il a trouvé dans les archives. Et vous, vous nous parlez d'un vote vieux de 22 ans, François-Xavier Fauvel.
Absolument. Je vais vous parler du 10 mai.
Alors, tout le monde se souvient. Bien parce que l'archive qu'on vient d'entendre, c'était une archive de 10 mai, mais 80.
Tout le monde se souvient du 10 mai. Je veux dire le 10 mai 1994, date de l'investiture de Nelson Mandela comme président de la République d'Afrique du Sud. Tous les États, toutes les têtes couronnées, tous les organes de presse du monde entier étaient présents à Pretoria pour écouter le discours Urbi et Orbi du premier président noir du pays, l'homme qui était encore un peu plus de 4 ans auparavant le plus vieux prisonnier politique du monde. Mais ce sont des images, pas des paroles, que nous avons gardé en mémoire. Des images formées les 26, 27, 28 et 29 avril, 2 semaines plus tôt. Comme tous les souvenirs qui participent de notre conscience politique du monde, les souvenirs de ces jours-là sont au format télévisuel. Ils nous montrent des files de gens qui font la queue devant des bureaux de vote, dans des centres-villes du pays ou dans la poussière des townships de Johannesburg. Les files, qui s'étirent et s'entortillent comme des lacets, font des centaines de mètres, parfois des kilomètres. Les gens attendront 1, 2, quelquefois 10 heures. Ce sont des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, des très jeunes, des très vieux, des gens en habit du dimanche, en vêtements traditionnels, en tenue de travail, des gens tête nue, des gens à casquette, des gens à voile sur la tête, des gens à turban. Ils sont patients et festifs. En dépit de l'attente, ou peut-être à cause de ce qui les pousse à attendre, certains sont hilars, des vieux pleurent. Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir le droit d'entrer dans l'isoloir, de placer des bulletins dans des enveloppes, de glisser les enveloppes dans des urnes et de recevoir un tampon indélébile sur le dos de la main. Ils vont voter pour élire leurs représentants provinciaux et nationaux, c'est-à-dire tout simplement pour élire les gens qui feront les lois. Ce n'est pas tant qu'ils votent tous pour la première fois, non, car les Blancs, eux, avaient l'habitude. Le régime d'apartheid était le leur. Les Asiatiques et les gens de couleur, c'est-à-dire les Métis du pays, votaient quant à eux dans les collèges électoraux des Asiatiques et des gens de couleur. Les Noirs étaient privés de droits civiques, mais les ouvriers noirs votaient dans leurs syndicats, les militants, dans les cellules locales des partis. Non, ce qui se passe sous nos yeux en ces jours d'automne, car avril est en automne dans l'hémisphère sud, c'est que ces gens votent pour la première fois ensemble pour élire une chambre unique de députés qui représenteront le pays tout entier. C'est juste ça que font les Sud-Africains en votant. Mais ce n'est pas rien, car en réalité, c'est en votant qu'ils deviennent Sud-Africains. Car oui, le jour d'avant, ce simple mot de Sud-Africain ne désignait qu'une toute petite partie d'entre eux. Les Noirs étaient les étrangers. Bien sûr, ils étaient invités sur le territoire des Blancs pour y travailler comme domestiques ou mineurs de fonds, sans avoir le droit d'emprunter ni les mêmes écoles, ni les mêmes bus, ni les mêmes entrées des bureaux de poste, ni les mêmes trottoirs. Et leurs familles devaient résider dans des pays postiches appelés Bantoustans, dirigés par des rois de pantomime ou des généraux présidents. Ils votent. Ils n'ont plus peur de la répression policière qui tue les jeunes, ni de la lutte armée qui tue les adultes. Ils n'ont pas peur de la guerre civile qu'ils ont conjurée depuis 4 ans, non sans des milliers de victimes. Ils n'ont plus peur des milices noires, ni des milices blanches, ralliées in extremis au scrutin. Ils n'ont pas peur des attentats, commis jusqu'au jour du vote. Ils se contentent, dans l'enthousiasme d'une première fois, de participer à la naissance de leur nouvelle identité, en devenant des concitoyens. Certes, comme après toutes les naissances, la suite est un peu plus banale. La démocratie, comme la vie, ne cesse à chaque seconde de perdre un peu du charme des commencements. Mais dans le souvenir des files d'électeurs d'avril 1994, il y a le battement d'une émotion enfouie qui est d'abord la nôtre, celle du privilège démocratique que le souvenir voudrait réveiller en chacun de nous.
Merci beaucoup François-Xavier Fauvel de nous avoir rappelé effectivement que le droit de vote est un droit essentiel et que certains se sont battus pour l'avoir. C'était le cas en 1994 et cette chronique nous le rappelle. Comme d'habitude, cette chronique peut être téléchargée séparément du reste de l'émission pour garder par devant vous l'ensemble de ces chroniques, donc de ces petits précis d'histoire à l'usage des candidats. On espère que nos candidats en feront bon usage justement. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Vous êtes là, comme toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, pour participer à ces rendez-vous de l'Histoire de Blois. Nous allons faire beaucoup de choses pendant ce week-end ici à Blois, et en particulier donc célébrer la naissance d'une nouvelle revue. Quand on a vu qu'il y avait une nouvelle revue qui paraissait, on s'est dit c'est un bon sujet pour commencer notre émission de ce vendredi.
Oui, et puis ça nous rappelait quelque chose, Emmanuel, puisque il me semble aussi que cette idée peut-être avait été lancée lors d'une émission que nous avions faite.
En 2014. j'ai du mal. Je me crois éternel, vous savez, c'est terrible. Donc oui, en 2014. Et d'ailleurs, on va écouter tout de suite Christophe Granger, qui était un des fondateurs de cette revue, à notre micro. C'était dans une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée à quoi ? À l'histoire des sensibilités.
Il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant en histoire. Il faudrait interroger, alors avis aux amateurs, faire cette histoire des modes de relégation de l'histoire des sensibilités à l'intérieur de la profession des historiens. Moi, je rappellerais simplement, alors c'est un chantier, il y a du boulot. Il me semble intéressant de rappeler que si on raisonne pas strictement en historien, il y a quand même quelque chose qui se produit depuis 5-10 ans, qui est la relégation. Enfin, on a abandonné tout ce registre-là aux sciences cognitives, au biologisme et ainsi de suite. Il me semble pas absurde que les historiens s'en emparent. Voilà, aujourd'hui. Donc, là aussi, vie aux amateurs.
Et nous sommes 2 ans plus tard, 2 ans après cet enregistrement, et nous avons en main un très bel objet. Bonjour Chloé Pathé.
Bonjour.
Vous êtes éditrice aux éditions Anamosa, que vous avez fondée d'ailleurs avec Christophe Granger en particulier, et vous avez fondé cette nouvelle revue qui s'appelle Sensibilité, Histoire critique et sciences sociales, et un des participants à ce comité de rédaction est à côté de vous, c'est Hervé Mazurel. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci d'être venu ici pour ce très bel ouvrage, pourrait-on dire, parce que c'est une magnifique revue sur un papier recyclé, un beau papier particulier, avec des rappels, pourrait-on dire, graphiques, avec les belles époques des années 70 du groupe Bazooka, mais également aussi des rappels d'un certain situationnisme graphique, on peut dire, et à l'intérieur, non pas une revue graphique, on pourrait le croire quand on voit la maquette, mais une revue d'histoire, de critique et de sciences sociales, Hervé Mazurel.
Oui, et qui a alors vraiment l'ambition pour le coup d'être pleinement pluridisciplinaire, interdisciplinaire. L'idée, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres, hein, parce qu'on est malheureusement trop enfermé dans nos carcans disciplinaires. On finit par les historiens s'occuper de l'homo historicus, les économistes de l'homo economicus, et finalement, ça produit de l'aveuglement. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment on accueille des géographes, des philosophes, des historiens de l'art et tout un tas d'autres intervenants. Donc, libérer tout ça de carcan disciplinaire, mais aussi s'ouvrir à d'autres acteurs du champ social, à des dessinateurs, à des photographes, à des acteurs du champ environnemental. Enfin, bref, on ne s'interdit rien, hein, avec l'idée d'essayer de casser le mur qu'il y a entre les sciences humaines et sociales et puis le reste du public, sans trop perdre non plus dans notre exigence scientifique.
Alors justement, Hervé Mazurel, le pari de ce type d'entreprise, c'est aussi de laisser entendre la recherche en train de se faire. Et cette revue, ce n'est pas une revue scientifique au sens où on les rencontre habituellement. C'est une revue qui est vendue en librairie. Je sais que vous faites plusieurs événements de lancement. L'idée étant vraiment de la faire lire par des non-spécialistes. Et des spécialistes aussi, on n'exclut personne. Mais dans cette idée-là, on voit bien aussi qu'il y a une recherche de nouvelles frontières. C'est-à-dire comment écrire cette recherche en train de se faire pour qu'elle soit accessible à tous et en même temps qu'elle n'entre pas en conflit avec une certaine trahison, peut-être, du langage scientifique que vous maîtrisez.
Ah, c'est toute la difficulté. Il y a une tension qui traverse cette revue, et même à l'intérieur même du comité dans lequel je participe. C'est cette tension entre l'idée vraiment de s'ouvrir au maximum et au reste des gens qui n'ont pas accès d'habitude aux revues des sciences humaines et sociales, qui sont souvent écrites pour les chercheurs, au mieux pour les enseignants et pour les étudiants, mais qui souvent ne s'adressent à personne d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une partie à l'intérieur de notre revue qui s'appelle Expérience, en invitant des photographes, des dessinateurs, nous permettent d'enrichir l'appréhension du thème, ici le charisme sur le premier numéro. Et puis de l'autre côté, en même temps, on a ouvert un espace de recherche commun qu'on voudrait partager avec les sociologues. On est tous historiens au départ, mais qu'on voudrait partager avec les sociologues, les anthropologues, les psychologues, pour montrer finalement comment les sensibilités ne sont pas un objet, mais une démarche qui permette de retraverser l'ensemble, je dirais, du social, du culturel, du politique, une nouvelle forme d'intellection, et pas seulement un objet. Il faudrait travailler les sensibilités à côté de la politique, à côté de la culture, mais de revisiter complètement l'ensemble de la vie sociale, en quelque sorte, les ressorts sensibles de la vie sociale.
Oui, parce que tout de même, cette question des sensibilités, il paraît ces temps-ci, aux éditions du Seuil, une grande histoire des émotions. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça n'est pas la même chose? Comment l'entend-on d'une certaine façon? Qu'est-ce que vous entendez par sensibilité, au pluriel, dans cette revue, et quel sera l'axe, pourrait-on dire, de cet apprentissage de ce que sont les sensibilités en histoire et dans les autres disciplines des sciences humaines?
Alors, aux États-Unis, on parle essentiellement de History of Emotions, mais le français distingue l'émotion du sentiment. Et donc, pour nous, les sensibilités s'embrassent large. Ça va des perceptions sensorielles, des sens, jusqu'au sentiment, en passant par les émotions. La différence entre une... C'est évidemment, tout ça, c'est très labile et c'est poreux, mais la différence entre une émotion et un sentiment, l'émotion est plus spontanée, elle est plus directe. Généralement, elle se manifeste avant tout par les gestes du corps, moi par un discours. Une émotion qui, en quelque sorte, se cristallise dans la durée, c'est un sentiment. La haine, l'amour, etc. Donc, c'est tout ça, les sensibilités, mais c'est aussi les goûts et les dégoûts, les manières d'être au temps, le sentiment de la vitesse, l'ennui, les manières d'être à l'espace, l'appréciation du paysage. C'est donc un champ très large. La vie des affects, en gros, pour résumer, pour nous, c'est ça les sensibilités.
Chloé Pathé, lancé dans une petite maison d'édition qui vient de se lancer, justement, une nouvelle revue, c'est quand même un pari assez incroyable, parce que c'est compliqué de lancer une revue. Bon, vous avez une troupe qui tourne autour de vous, qui est assez déterminée. Une équipe assez déterminée, on peut dire. Ils ont vraiment conscience, alors on peut les citer, ils ont conscience qu'ils font un travail ou une œuvre. Il y a Quentin Deluermoz, Christophe Granger, Hervé Mazurel, qui était avec nous, Clémentine Vidal-Naquet au comité de rédaction, et un conseil scientifique très, très important. Et vous êtes, directrice de l'édition, de l'équipe éditoriale, avec Mélie Giuziano, qui est responsable de la création graphique. Mais néanmoins, lancer une revue qui n'est pas simplement une revue scientifique, mais qui se veut aussi une revue graphique en même temps que scientifique, avec une forte exigence des deux côtés, ça n'est pas très simple.
Non, mais la maison a été créée en effet cette année et on a lancé, en fait c'est la seconde revue qu'on lance dans la maison d'édition. Il y a aussi une revue de musique, et en fait ce projet des deux revues, c'est aussi créer un espace pour le collectif, justement, et ça fait partie du projet de la maison. Enfin, je dirais que le nom qu'on a choisi pour la maison d'édition, Anamosa, c'est un mot d'une langue amérindienne qui est le Sauk, et qui signifie « je marche avec toi ».
Faut déjà le chercher.
Et ce qui m'intéressait dans ce mot-là, c'est à la fois qu'il est très joli à l'oreille, avec l'assonance en A, donc qu'il évoque beaucoup de choses, mais c'est aussi son sens. Marcher, la marche, c'est le temps qu'on prend pour aller d'un point à un autre. Ça peut être plus ou moins long. C'est le déplacement. C'est aussi la divagation. Et le avec toi, c'est marcher justement ensemble et cette dimension collective de créer une communauté, bah, à la fois bien sûr avec les auteurs, mais aussi avec les libraires et tous les relais dans le petit monde, enfin grand monde, qui est celui de la vie du livre et des idées, et de le partager avec les lecteurs. Donc ça, c'est très important. Et l'espace revue, une revue, par définition, c'est collectif. Donc c'est aussi cet espace de débat, et je dirais la maison, enfin, en ça, veut s'inscrire, enfin, dans la politique au sens étymologique du terme, enfin, d'expression dans la cité. Et la revue qui a un rythme une périodicité, donc c'est des rendez-vous réguliers qu'on s'impose, et c'est vrai que c'est un sacré fil à la patte, de revue. Deux fois par an, oui, pour sensibilité. C'est s'inscrire dans cet espace de débat. Et comme disait Hervé, on est cette frontière entre le scientifique et justement d'autres gens, d'autres lecteurs, et vraiment fait aussi partie du projet de la maison.
Anaïs.
Alors, il y a quand même quelques grands anciens dans cette revue. On trouve un très bel article d'ailleurs d'Arlette Farge qui propose d'entrer dans son atelier d'historienne.
Je peux dire que j'avais les larmes aux yeux, voilà, en lisant
Arlette. Qui a presque fait pleurer Emmanuel Laurentin.
Non, c'est vrai, mais puisqu'on en est à sensibilité, j'étais très sensible à cette conclusion. Comment j'écris, demandiez-vous au départ. Sait-on jamais comment on écrit? Et sait-on repérer tous les instants fragiles et inattendus où la plume a été plus vite que l'esprit, a suivi des intuitions majeures et où le cœur a mis un peu de sa patte sans qu'on s'en aperçoive, comme un chat? C'est tant mieux, l'historien académique qui contrôle tout et ne laisse rien paraître de ce que furent ses doutes, ses revirements et ses hésitations, esquive une des composantes de l'histoire, son intranquillité quotidienne. Ça, c'est ce qu'écrit Arlette Farge dans Sensibilité.
On va s'arrêter là, j'ai peur que vous craquiez. Donc, comme je le disais, il y a quelques grands anciens, Arlette Farge, et puis Yves Cohen aussi, mm-hmm. historien du pragmatique. Mais malgré tout, à lire les participants de cette entreprise de Sensibilité, on a la véritable sensation d'une revue de génération. Grosso modo, on est chez ceux qu'on appelle les jeunes historiens, sachant qu'on est jeunes très longtemps en histoire.
On est tous
très longtemps.
Minimum, tous ça, c'est au-delà de 40.
Mais il y a une dimension comme ça de revue de génération. Et puis ce thème, ce premier thème que vous avez choisi pour ce premier numéro, l'anatomie du charisme, moi, ça m'a posé la question de, finalement, une entreprise de construction d'un charisme collectif pour une génération d'historiens qu'on continue à appeler les jeunes historiens.
Oui, en même temps, oui. Est-ce qu'on essaye de pousser les anciens vers la retraite? Je ne suis pas certain, parce qu'en même temps, je pense qu'on a envie de signifier...
Non, il y a deux bureaux de grands anciens dans ce numéro.
Mais je pense qu'on a voulu aussi signifier notre dette. On a été formés par Alain Farge, par Alain Corbin. On est tous au départ historiens des sensibilités. Clémentine, Quentin, Christophe et moi, et toi un peu aussi, du coup. Et donc, du coup, je crois qu'on ne pouvait pas mieux signifier notre dette que de prolonger leur effort historiographique, qui à l'époque était particulièrement... difficile à faire valoir dans le paysage historiographique, et de prolonger des intuitions, voire même d'en critiquer certaines dimensions, parce qu'au fond, on n'est pas, enfin, je trouve que les maîtres, il ne faut pas être toujours bon élève pour les honorer, voilà. Et donc on va essayer d'être aussi des élèves un peu impertinents, un peu indisciplinés, et voire parfois de discuter peut-être à fond leur texte.
Alors prenons justement cette notion de charisme. Donc vous développez, c'est le dossier, pourrait-on dire, de cette revue, ce thème du charisme. Alors, un vieux thème, évidemment, et vous rappelez dans plusieurs articles ce qu'il doit en particulier à la figure de Max Weber, et puis aussi de Clifford Geertz, mm-hmm. que vous interrogez d'ailleurs avec Christophe Granger dans une sorte de ping-pong que vous faites. Il faut dire qu'il y a dans cette revue des passages très intéressants de graphisme, justement, puisque vous arrachez des pages. Mm-hmm. On a une séquence sur France Culture régulière, on avait une séquence régulière qui s'appelait « Pages arrachées à l'œuvre d'un tel ». Vous arrachez des pages à l'œuvre de Clifford Geertz, vous les photocopiez, elles sont au milieu du texte, et puis autour, vous faites une sorte de commentaire avec des flèches qui renvoient au passage qui vous intéresse, donc une vision très, comme ça, contrastée de l'œuvre ancienne et de ce que vous en dites. Donc il y a effectivement ces grands anciens et cette notion de charisme, vous la réinterrogez en vous demandant est-ce qu'il faudrait pas appeler ça, puisqu'on est en période électorale, la grandeur, qu'est-ce qu'il y a du charisme ou de la grandeur chez les auteurs. Il y a un texte fameux de Christophe Granger sur Proust, par exemple, ouais. Comment Proust regarde une grande tragédienne de son époque et évolue avec elle, pourrait-on dire, sur toute la durée de la recherche du temps perdu. Donc il y a tout un tas de réflexions autour de ce que c'est que ce mot de charisme et ce que ça représente dans la société contemporaine, Hervé Mazurel.
Oui, alors pour revenir juste sur la dispute que vous évoquez, c'est vraiment une rubrique qu'on a voulu pour en quelque sorte revivifier le débat, la controverse intellectuelle qui parfois nous semble un peu avoir un peu disparu, s'être un peu effacée, alors même voilà, qu'elle pourrait revivifier.
La dispute entre deux qui s'entendent bien.
Alors le problème, on s'entend bien, mais en même temps, oui, on s'entend bien. On a énormément de choses en commun. Et en même temps, Clifford Geertz a toujours été une personnalité clivante entre nous. Et du coup, on en débat sans grande virulence, il faut l'avouer. Mais c'est une personnalité clivante qui a longtemps été jugée comme un relativiste. Lui se disait anti-relativiste avec pas mal d'humour. Et c'est quelqu'un à qui je suis attaché comme pas mal d'autres historiens. Donc voilà, un débat autour de Clifford Geertz, mais la notion de charisme, qu'est-ce qu'on a voulu en faire? Ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que le terme de charisme est absolument partout, dans les manuels de développement personnel, dans les émissions de télé-réalité.
Il y a un très bon article sur les manuels de développement personnel, effectivement. Je pourrais d'ailleurs poser la question à tous ceux qui sont dans cette salle de savoir s'ils sont vraiment des êtres charismatiques, parce que ces manuels de développement personnel tentent de donner envie à chacun de devenir une personnalité charismatique dans la société contemporaine.
Améliorer le port.
Selon vous, quels sont les points à travailler en priorité pour développer votre charisme? Ma voix ou mon élocution, ma coiffure, ça c'est pour moi la voix. Ma coiffure, mon maquillage, c'est pour moi aussi. Mes vêtements, ma silhouette, etc. Ouais. etc.
Et je crois que le but de la revue, c'est de prendre de la distance avec cet usage assez paresseux du terme de charisme pour rappeler une chose très simple au fond. D'abord, notre question, c'est pas qu'est-ce que le charisme, on cherche pas à le définir en soi, dans un absolu, mais de dire d'abord, voilà, le charisme, si c'est une chose, c'est avant tout une relation. C'est une relation entre un individu qu'on dit porteur de charisme, de qualité intrinsèque, d'audace, de courage, etc. Mais c'est surtout, et c'est là le coup de force de Max Weber, dit, dans cette relation, ce qui est très important, ce sont les autres. Le charisme, c'est les autres. C'est-à-dire ceux qui investissent dans une personne leurs rêves, leurs espoirs, leurs attentes, leurs craintes aussi. Et donc, c'est cette relation charismatique entre cet individu et cette communauté affective, l'envoûtement qui est à l'œuvre, il est fragile. Il est menacé en permanence. Et donc, l'individu charismatique, dit charismatique, il est masqué en quelque sorte. Il ne cesse de cacher ce qu'il doit cacher aux autres pour ne pas perdre son charisme, et d'essayer de convaincre sans arrêt qu'il a bien les qualités qu'on lui prête. Mais parfois, il arrive un moment où ce charisme s'use et que la machinerie tourne à vide. Et ça, c'est toujours passionnant. Et donc, je reverrai notamment à ce texte de Philip Roth qui s'appelle Le Rabaissement, ce roman, où il décrit très brièvement un acteur de théâtre qui, comme ça, joue de moins en moins bien, le public le délaisse et lui comme perd sa confiance et voilà, et tout d'un coup son jeu de théâtre tourne à vide. Et c'est une belle image, je trouve, pour rendre compte de cette affaire.
Anaïs.
Oui, Hervé, vous expliquez tout à l'heure à quel point cette revue peut avoir une ambition, d'une portée de relecture de l'histoire à l'aune des sensibilités. Je vais sortir un tout petit peu peut-être de la revue et du charisme. Non, pas tout à fait du charisme, d'ailleurs, je vais rester dans le charisme et sortir de la revue. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur la guerre des Philhellènes français, ces engagés volontaires armés qui sont partis dans les années 1820 prêter main forte aux Grecs dans leur guerre d'indépendance. Et dans votre thèse, vous développiez aussi toute une partie de cette stimulation, de cette émulation par un effet Byron le poète, qui était devenu une figure de proue, qui avait lancé des appels et qui était lui-même parti. D'ailleurs, il est mort là-bas. Et cet effet Byron, finalement, j'étais presque déçue de ne pas le trouver. Relu à l'aune de ce cadre de revue sensibilité.
Avec ma thèse, et puis même moi je me sens un petit peu loin de tout ça, mais oui, il y avait deux choses dans la thèse où j'ai pu toucher la question du charisme. D'abord, un engagé volontaire, c'est quelqu'un qui choisit la guerre, qui ne la subit pas, qui parfois la désire même, et qui par son geste s'émancipe du commun en quelque sorte, parce que voilà, il est capable de sacrifier sa vie pour des idées et pour des valeurs. Et ça lui donne d'emblée une aura particulière. Et Georges Mossé, lorsqu'il écrivait la montée en puissance du mythe de guerre avec les guerres de la Révolution française, les guerres napoléoniennes, il disait, voilà, il y a une dimension très importante, c'est la sacralisation de l'engagé volontaire. Et pour revenir vite fait sur Byron, oui, c'est l'icône à l'époque, c'est vraiment l'icône romantique par excellence. Et lui avait très bien compris tout ce qu'il avait à gagner pour son propre mythe, à aller combattre auprès des Grecs, voire à mourir. En fait, en réalité, il est mort de malaria. Il n'a pas tiré un seul coup de feu là-bas. Il est mort d'une région marécageuse. Mais tout ça a été embelli comme une belle mort auprès des Grecs. Et ça a fait beaucoup pour son mythe. Et on l'a pleuré. On a du mal à imaginer à quel point la jeunesse romantique l'a pleuré vraiment.
Et a pris du plaisir peut-être à cette déploration.
Sans doute.
Chloé Pathé, donc on a expliqué comment une nouvelle maison se lançait en créant deux revues. Effectivement, j'en avais oublié une des deux, mais celle-ci m'intéresse peut-être plus que l'autre qui traite de musique, c'est
oui,
ça.
Oui, oui.
Donc lance cette revue. Donc c'est un rythme biannuel, c'est ça?
Oui.
Et que vous avez choisi parce que justement il fallait le temps de composer, de travailler et de faire une sorte de petit livre ensemble, parce que c'est aussi cela.
Oui, il y a, comme toute entreprise collective, il y a le temps déjà de commande des textes, d'écriture des textes, et l'idée à chaque livraison de la revue Sensibilité, c'est de renouveler aussi le graphisme, de s'adapter au thème, d'inventer à chaque fois. Et on a voulu justement l'objet, la dimension objet et maquette est très importante dans ce projet-là, et elle vient montrer la tension permanente entre l'exigence et l'accessibilité qui est au cœur de la revue dont Hervé parlait tout à l'heure. On a voulu un papier justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, sensible, je pense, enfin qui se sensible parce que il y a cette dimension très sensuelle de l'objet avec un papier de couverture qui a une matière et ce papier recyclé à l'intérieur qui m'intéressait pour plusieurs raisons, parce qu'il est recyclé et d'un point de vue technique, il a une densité que n'ont pas des papiers d'autres compositions de même grammage.
Ce qui vous permet d'ailleurs de proposer des reproductions de photographies très belles.
Oui. Et là, je dois le saluer. Il y a des personnes dont on parle peu. Le travail de Magali Casal, en fait, qui fait ce qui s'appelle la photogravure de toutes les illustrations et photographies qui sont dans l'ouvrage. Et il y a tout un travail de préparation des fichiers en amont qui permettent des résultats comme ça.
Hervé Mazurel, on a dit qu'il y avait une rubrique recherche, une autre qui s'appelle expérience, cette rubrique dispute où deux chercheurs débattent d'un sujet sur lequel ils ne sont pas totalement d'accord. La quatrième rubrique, ça s'appelle comment ça s'écrit, et ça, donc c'est le texte d'Arlette Farge. Ça me paraît extrêmement intéressant parce que vous permettez à des lecteurs d'entrer dans la fabrique des sciences sociales, c'est-à-dire vous entrez dans la coulisse grâce à une rubrique comme celle-ci, et j'imagine qu'il y en aura régulièrement avec d'autres historiens ou historiennes et peut-être d'autres acteurs des sciences sociales, eh bien on entre dans la façon dont on conçoit, écrit une œuvre, et ça c'est extrêmement intéressant, d'autant qu'aujourd'hui on sent dans la façon dont les lecteurs abordent ces questions des sciences sociales une envie d'entrer dans le processus de fabrication, le processus de pensée, le processus de création, Hervé Mazurel.
Oui, on avait envie de passer, grâce à cette rubrique, de passer de l'autre côté du miroir, donc vraiment d'entrer dans l'intimité de l'écriture du chercheur, dans son atelier. Des choses au départ toutes simples, dans quelle pièce, à quelle heure, donc avec du fil de la musique, on s'y lance, mais savoir aussi comment l'environnement stimule ou pas l'imagination, facilite l'écriture, et est-ce que ça a une influence sur les manières dont on écrit, des choses très concrètes, et en même temps, c'est pas une démarche facile. Noël Hadfage nous a fait un beau cadeau, d'être à la fois le sujet et l'objet de son texte. et du coup, un certain nombre de chercheurs hésitent à s'y lancer, parce que ça suppose de révéler un peu une certaine intimité. Et ce qui est très intéressant aussi chez Arlette Farge, c'est une génération qui n'écrit pas à l'ordinateur, qui écrit toujours
à la main.
À la main
et d'ailleurs, il y a de très belles reproductions, effectivement, de la façon dont elle prépare ses textes, manuscrits. Ouais. Un petit conseil, quand on est jeune comme vous, on voit très bien. Quand on est vieux comme moi, on voit moins bien. Donc les notes en bas de page, vous augmentez. C'est pas police 5 ou 6, mettez de la police 7 parce que j'ai eu beaucoup de mal à les lire.
C'est une sélection de l'âge du lecteur aussi.
Ouais, c'est ça.
C'est la génération.
C'est le darwinisme social appliqué à la revue de sciences sociales et humaines. Donc Anatomie du charisme. Merci Hervé Mazurel d'être venu avec Chloé Pathé présenter ce travail. Donc Sensibilité, histoire, critique et sciences sociales qui sort tout juste aujourd'hui. Ça sort dans les kiosques et donc vous pouvez le lire. Et puis, je voulais vous donner en contrepartie, effectivement, une autre revue. Alors, beaucoup plus d'actualité, pourrait-on dire, à propos de ce qui s'est passé Et ce qui se passe ici, donc, partir, c'est le numéro hors série du Monde qui sort, conquérir, quitter, fuir, s'exiler, voyager et découvrir. C'est notre partenaire puisque nous faisons partie de ce numéro. Certaines des émissions de la Fabrique de l'Histoire qui ont été récemment réalisées sont retranscrites dans ce numéro du Monde hors série qui sort en kiosque. Bonjour Séverine Yatard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter le nouveau feuilleton qui va commencer la semaine prochaine de la Fabrique de l'Histoire. Mais d'abord, on écoute un extrait de ce feuilleton, on va comprendre de quoi il s'agit.
Alors, vous m'écoutez s'il vous plaît ? Alors, je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. On peut y aller ? On avait juste commencé en quelques minutes à présenter un petit peu l'Allemagne de l'après 1918. Bon. Qu'est-ce qui se passe en 1918 ? Donc, il y a la fin de la guerre, Alexandre.
Après, il y a eu l'abdication de l'empereur d'Allemagne.
Oui, Guillaume II, très bien, qui abdique. Le 9 novembre, et quel est le...
On va mettre en place une république.
Voilà, une république se met en place. Comment est-ce qu'on l'a appelée, cette république ?
La République de Weimar.
La République de Weimar. Est-ce qu'elle est populaire parmi la population, impopulaire ? Comment est-ce qu'elle est perçue ?
Impopulaire.
Alors, impopulaire, pourquoi est-ce qu'elle est perçue comme impopulaire, cette République de Weimar, dès sa création, en 1918-19 ?
Oui ? C'est parce que les soldats, ils ont arrêté la guerre trop tôt.
Et qui a traité ? Qui a signé le traité de Versailles ? Ce sont des membres de la République de Weimar. Et comment est-ce qu'est perçu ce traité de Versailles par l'Allemagne en 1919 et en 1920 ?
Oui. Une humiliation.
Une humiliation. Voilà, très bien. Donc on s'est arrêté là la dernière fois. Donc maintenant on embraye sur le cours suivant. Il n'y a pas d'absence ? J'ai oublié de faire la paire. Tout le monde est là ?
Léo et...
Bon, alors Léo, d'accord. Léo, c'est comment ça ?
Il n'y a pas qu'au cinéma qu'il y a des bandes annonces, aussi également à la radio. Séverine Yatard, donc un extrait de ces reportages qui sont réalisés et diffusés tous les jeudis dans la Fabrique de l'Histoire autour de la Fabrique de l'Histoire scolaire.
Voilà, en début d'émission, et je remercie le collège Edgar Varèse et Fabien Jouan pour ce premier enregistrement. Alors un feuilleton qui voudrait donner à entendre pour mieux comprendre sous la forme à la fois de reportages mais aussi d'entretiens, donc l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Du primaire au baccalauréat, de la fabrique des programmes à leur application. Alors, l'idée, c'est de saisir les multiples pratiques enseignantes, circonscrites dans des établissements divers, à Paris, en banlieue, mais aussi dans d'autres régions de France, au sein des structures qui peuvent être considérées comme des établissements d'excellence, mais qui peuvent aussi appartenir au réseau d'éducation prioritaire, les REP et REP+, qui correspondent à 1000 collèges, environ, en 2016. Des structures aussi qui peuvent appartenir à la Fédération des établissements scolaires publics innovants, les FESPI, qui proposent une offre pédagogique alternative à tous les élèves et notamment aussi aux décrocheurs. Et ces FESPI, qui fédèrent une quinzaine de lycées et collèges expérimentaux, sont proches évidemment des groupes d'éducation nouvelles. Nous explorons la filière générale, mais aussi les filières technologiques, professionnelles, qui consacrent un nombre d'heures un peu plus restreint à l'histoire. Alors en gros, de la sixième à la troisième, les collégiens ont 3 heures d'histoire par semaine, en seconde indéterminée également, et puis selon les filières scientifiques, littéraires ou économiques, on passe de 2 heures à 4 heures d'histoire par semaine. Alors, quelles sont ces pratiques enseignantes face à un public qui est parfois extrêmement hétérogène ? Cours magistraux, cours interactifs, questionnements collectifs à l'aide de supports audiovisuels, des projets au long cours, collectifs ou individuels et également. Renouveau pédagogique aussi à travers les classes EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires, qui doivent se généraliser justement en croisant des enseignements. Il y a aussi également les nombreuses activités périscolaires qui sont possibles avec les musées, les archives, les théâtres ou les bibliothèques. La rédaction des livres scolaires également sera abordée. Qui les écrit ? Comment est-ce que les enseignants les utilisent vraiment ? Et puis, autre thématique évidemment à traiter, c'est la formation des enseignants au sein des ESP, Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, des formations dispensées par des équipes pédagogiques plurielles qui sont composées à la fois d'enseignants du supérieur, d'enseignants en poste, des inspecteurs et des chefs d'établissement, ainsi que des personnels de bibliothèque, des services de documentation. Alors, après l'obtention d'une licence, la première année du Master MEF constitue une préparation d'abord intensive au concours de recrutement avec déjà des stages d'observation, et puis les étudiants admis admis au concours obtiennent en deuxième année donc de master un statut de fonctionnaire stagiaire. Alors ils effectuent un mi-temps d'enseignement et puis un mi-temps de formation. Et ensuite, ils sont titularisés sur un poste fixe ou alors ils sont TZR, titulaires sur zone de remplacement. Et là, ils doivent donc faire face à une demande de suppléance quasi immédiate pour une courte et une longue durée. Donc
oui, c'est... la course, ça peut être deux jours, et puis une longue durée.
Voilà, ça peut être un congé maternité, voilà. Par exemple, un peu plus long. Alors, les enseignants, bien sûr, ont aussi des associations qui fonctionnent un peu comme des centres de ressources. La plus ancienne, l'Association des historiens et géographes, la PHG, et puis aussi les Clionautes ou Aggiornamento. Et ces associations s'expriment et s'excriment aussi toujours au moment de la refonte des programmes. Et comme cette année, par exemple, avec la refonte de ceux du collège. Or, quand les programmes d'histoire changent, ça provoque toujours des histoires. Ouais. Et ce n'est pas nouveau.
Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons voulu lancer avec vous ce feuilleton dans la Fabrique de l'Histoire. C'est-à-dire qu'on entend, et on va entendre j'imagine pendant la campagne électorale, beaucoup de choses autour de l'enseignement de l'histoire, de la façon dont est enseignée l'histoire de France en particulier. Et donc il fallait aller y voir. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez y voir, aller y entendre ceux qui font l'histoire, ceux qui l'écrivent et ceux qui la reçoivent en tant qu'élèves.
Voilà. Et est-ce qu'on entend alors ces problématiques récurrentes sur quelle histoire enseigner? Parce qu'à chaque fois, des polémiques qui mettent en jeu deux visions assez contradictoires, hein, de irréconciliables peut-être, de l'enseignement de l'histoire. Alors d'un côté, il y a toujours les partisans d'une histoire chronologique au service du roman national, qui est porté par des grands personnages et des héros consacrés. Et puis de l'autre, il y a ceux qui regrettent que ces programmes véhiculent toujours une vision conservatrice et un peu fantasmée de la France. Ils sont d'ailleurs adeptes d'une histoire plutôt sciences sociales, une histoire connectée, plus thématique, plus problématique et davantage aussi peut-être en phase avec la recherche avant de se faire. Alors, faut voir si sur le terrain, effectivement, on perçoit ces deux oppositions. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question des relations qu'entretiennent finalement qu'entretient l'enseignement du secondaire avec l'enseignement à l'université et la recherche. Et puis, bien sûr, les élèves, nous les solliciterons, je l'espère, constamment pour comprendre vraiment ce qu'ils retirent de cet enseignement du passé et puis la manière dont ils appréhendent cette discipline essentielle dans toute leur scolarité.
Et d'ailleurs, puisqu'il y a sûrement beaucoup d'enseignants, d'anciens enseignants, des gens qui sont des élèves ou des étudiants dans cette salle, est-ce que l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre d'entre vous a une question à poser sur ce type ou une suggestion? Parce que, de compte fait, on est là aussi pour entendre ceux et celles qui pratiquent la discipline et qui enseignent. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il faudrait dans un feuilleton de ce type? Il y aura 40 épisodes, donc on a commencé, il ne faut pas s'inquiéter, tout est déjà lancé, mais on a toujours des possibilités d'agencer ou d'aménager tout cela. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il faudrait mettre dans un feuilleton comme celui-ci pour pouvoir mieux rendre compte de la façon dont l'histoire est enseignée? Est-ce que l'une ou l'autre... Tenez, madame, allez-y, on va vous faire passer. Vous êtes toutes les deux l'une derrière l'autre. Allez-y, madame, puisque le micro arrive à vous.
J'aimerais qu'on suggère, en fait, dans ces émissions-là, c'est le point de vue des élèves, puisque c'est eux qui reçoivent l'information. Donc, ce serait intéressant de voir comment ils interprètent l'information, de sorte qu'on puisse, en fait, améliorer aussi l'enseignement, la pédagogie, qui, à mon sens, serait une façon aussi de permettre une meilleure évaluation de la perception de l'enfant, surtout concernant l'histoire.
Oui, et pour vous, madame ?
C'était un petit peu la même remarque partant de ce qui avait déjà été fait à la fabrique. L'histoire-géographie, ça sert à quoi? Et effectivement, ça partait aussi de voir comment était reçu
cet enseignement,
chez les élèves.
Et là, troisième personne, allez-y.
Je vais aller avec, dans le même sens que mes collègues. Quelle est l'histoire apprise et pas seulement quelle est l'histoire enseignée?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'une des préoccupations que vous avez les uns ou les autres en tant que professeur, c'est de vous demander si, au bout du compte, ce qui est récupéré de votre enseignement vis-à-vis de ces élèves. J'imagine qu'il y aura une partie de cela dans votre feuilleton.
Bon, on essaiera d'alterner, en fait, sans cesse, je pense, le point de vue à la fois de l'enseignant, de l'élève, de l'institutionnel également, de l'organisation du côté plus structurel de cet enseignement.
Oui, parce que c'est tout un système, là aussi, un système assez complexe, celui de la conception des programmes, de la rédaction des manuels, de la formation des enseignants, de l'enseignement en classe et de la réception, finalement, par les élèves eux-mêmes, monsieur ?
Oui, je pense qu'il serait aussi peut-être intéressant de questionner les anciens élèves, le 10 ans après, qu'est-ce qu'il reste ?
C'est une très bonne question.
Et puis aussi peut-être, je me disais, les anciens enseignants aussi, pour essayer de voir l'évolution de cet enseignement et des pratiques pédagogiques dans le secondaire.
Mais effectivement, on pourrait se poser la question de ceux qui restent en chacun d'entre nous, peut-être du chevalier Bayard ou de Jeanne Hachette, par exemple. Si je demandais à quelqu'un dans cette salle, je pense qu'il y a une moyenne d'âge en dessous de laquelle personne ne sait qui est Jeanne Hachette. Je dois être juste à la limite de ce qu'il faut pour pouvoir se souvenir de cet enseignement de Jeanne Hachette. Une autre remarque, une autre réaction pour compléter et terminer cette présentation de notre série donc que nous allons lancer à partir de jeudi prochain autour de l'enseignement de l'histoire en France pour rendre cet enseignement de l'histoire plus tangible, plus présent, au-delà des discours qu'on tient généralement sur elle.
Ce qui serait...
Allez-y, monsieur.
Ce qui serait intéressant aussi, c'est de s'intéresser à toute une série de pratiques parallèles qui sont en dehors du cours. Je pense à l'activité de clubs qui peuvent aboutir à des productions, y compris des productions qui sont publiées et autres, et qui se font sur la longue durée, qui fonctionnent avec des élèves qui sont d'ailleurs auto-triés de fait, hein, puisque ce sont des activités qui sont basées sur le volontariat et qui généralement conduisent quelques élèves à mal tourner, puisque certains deviennent ensuite professeurs d'histoire, entre autres. Oui.
Personne n'est parfait, comme on dit. Merci, mesdames et merci, messieurs. Donc, rendez-vous est pris avec vous, Séverine Yatard, chaque semaine dans la Fabrique de l'Histoire, à partir de jeudi prochain. Bonjour Hervé Lemoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur en charge des archives de France. C'est quoi ce titre d'ailleurs ? Expliquez-nous ce que ça recoupe.
Eh ben, ça recoupe en fait une lourde responsabilité qui est celle de la conception et du pilotage de la politique publique des archives qui est mise en œuvre sur le territoire par tous les services que sont les archives nationales, les archives départementales et communales.
Et vous êtes venu pour nous dire qu'ici à Blois, dans quelques heures, on aura une petite nouvelle autour de cette question des archives de France. Vous pouvez pas totalement tout nous dire parce que la ministre a voulu garder pour elle le sel de cette proposition. Enfin, vous pouvez déjà nous dire que ça rentre dans la suite d'un grand événement qui a été coordonné justement par ces archives de France il y a 2 ans.
Absolument, je vais faire du teasing, pardon pour le terme affreux, mais effectivement ce sont les deux ministres
vous
d'ailleurs.
Vous allez nous mettre l'eau à la bouche.
Voilà, Nadia Vallaud-Belkacem et André Azoulay qui aujourd'hui sont présentes à Blois et vont annoncer, je peux dire, une nouvelle édition de la grande collecte, d'une grande collecte de documents d'archives en main privée qui auront vocation, évidemment, à rejoindre les services publics d'archives.
Alors, expliquez-nous ce que sont des archives, une collecte d'archives en main privée, Hervé Lemoine.
En fait, il y a 2 ans, au moment de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'on avait évidemment, enfin, qu'il y avait un intérêt public très fort pour cette histoire, mais qu'également il nous manquait tout un certain nombre de sources qui témoignaient justement des récits et des histoires individuelles qui constituent cette grande communauté de destin qu'a été la Première Guerre mondiale et qui avait beaucoup de choses en tant qu'historien ou qu'archiviste qui nous manquaient, qui nous échappaient, beaucoup de récits personnels. On en a tous eu, alors selon les générations de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, moi c'était mes grands-parents déjà qui me parlaient encore de la Première Guerre mondiale, mais à part ces récits, qu'est-ce qui restait d'autres, en termes de correspondances, de photographies, de carnets, de journaux personnels.
Et donc vous avez vu affluer, au moment de cette grande collecte, des milliers de Français qui sont venus vous proposer des documents.
Ça a été un succès dont on n'espérait pas l'ampleur. Et ce qui a été surtout très intéressant, c'est que ce qui nous a été donné, c'était beaucoup de choses qui n'avaient jamais effectivement pris le circuit officiel, par exemple, de la poste militaire, parce que ça aurait été probablement censuré. Et donc on a eu des récits de fraternisation, on a eu des récits au jour le jour de ce qu'était la réalité, en quelque sorte, de la guerre au quotidien, qui, je crois, fournissent aujourd'hui une source extrêmement, et parfois même un contrepoint extrêmement intéressant aux sources officielles dont nous avons la mission première de conserver.
De les conserver. Donc, en l'occurrence, ces documents sont numérisés, conservés, rendus à leurs propriétaires.
Alors, la première édition, c'est vrai qu'on favorisait beaucoup la numérisation des documents pour les mettre en ligne. D'ailleurs, sur le site lagrandecollecte.fr, que je vous invite tous à aller consulter, et qui va s'enrichir bientôt encore d'une autre grande collecte. Mais là, l'idée aussi de proposer aux gens qui le souhaitent de déposer, évidemment, les documents originaux dans les services d'archives dont c'est la mission, puisque l'objectif de la grande collecte, c'est de créer aussi un lien un peu personnel entre les Français, les citoyens et ces services qui ont vocation à conserver leur mémoire.
Ça veut dire que les Français, en général, ont une certaine crainte d'aller donner leurs documents, ou est-ce qu'au bout du compte, vous avez montré par l'intermédiaire de cette grande collecte qu'il y avait une facilité, une plus grande facilité des Français à vous confier archives départementales, municipales, etc., etc., et archives de France, archives nationales, à vous confier des documents.
Je crois que c'est pas forcément une crainte, mais ils considéraient que ce qu'ils avaient était insignifiant. En fait, c'est plutôt ça, c'est de dire, mais enfin, des correspondances, mais le journal de mon grand-père, en quoi ça peut intéresser des archives nationales ou des archives publiques. Donc c'était plutôt, dans leur esprit, une minoration de l'intérêt réel de ce qu'ils pouvaient conserver.
Anaïs Quin.
Mais n'y a-t-il pas un risque à une inflation comme ça, de la mise en valeur de l'archive privée, et nous allons finir par nous retrouver sous des archives que tout un chacun trouve extrêmement importants, puisqu'ils éclairent l'histoire de leur famille, puisqu'ils les aident à comprendre peut-être d'où ils viennent, mais qui n'intéressent pas forcément absolument, en tout cas, les chercheurs ou la mémoire nationale.
Alors, d'une façon un peu provocatrice, je vais vous dire que peut-être que le risque, c'est aujourd'hui de crouler, au contraire, sous la masse d'archives dites officielles ou administratives. On est dans une époque où on a une surabondance d'archives administratives.
Donc on équilibre la balance.
Et je crois qu'il est urgent d'équilibrer la balance, parce que vous parliez du sensible, et beaucoup de choses qui relèvent du sensible et qu'on va trouver dans ces documents échappent par définition souvent à nos archives administratives, et on a besoin donc de rééquilibrer la balance.
Et à propos du sensible, on a appris, donc c'était il y a quelques mois, mais on sait que c'est en train d'être traité par les archivistes de Paris en particulier, mais il n'y a pas simplement Paris, comment les documents qui ont été déposés, les hommages qui ont été déposés à la fois au Bataclan, mais également à la place de la République après les attentats de l'année dernière, ont été classés par les archivistes. Alors ce sont des petits mots, des dessins d'enfants, ce sont des choses qui ont été touchées par la pluie, parce qu'il a plu pendant les semaines où ces documents ont été posés au pied de la statue de la République, sur la place de la République, mais néanmoins ça fait archive et ça raconte aussi quelque chose de la sensibilité publique à ces attentats, Hervé Lemoyne.
Ah oui, de l'émotion provoquée par ces attentats et de la façon dont elle s'est exprimée. Beaucoup d'archives départementales ont également fait cette collecte de documents spontanément, je dirais, créés et déposés comme témoignages au moment des attentats. Et je pense que pour l'histoire future et la compréhension future de ce que ça a pu représenter dans nos sociétés, si on n'avait absolument pas cette dimension-là, eh ben, il nous manquerait quelque chose.
Merci Hervé Lemoyne. Enfin, en même temps, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Mais il faudra attendre quoi, 11 heures pour que les ministres ensemble viennent nous dire quelle est cette grande collecte,
En tout cas, dans la journée, les ministres diront absolument tout de l'ambition de ce programme. Et le fait d'ailleurs que ce soit déjà deux ministres, dont celui de l'Éducation nationale avec le ministre de la Culture, je pense vous donnera aussi une indication de l'ambition de cette nouvelle grande collecte qui va donc concerner beaucoup plus que les services d'archives, mais aussi l'école. Et je crois que c'est un partenariat absolument formidable.
Mais nous prendrons aussi comme un hommage le fait qu'elle vous ait dit que ça n'était pas à vous, mais à elle de l'annoncer. Parce que vous venez à la Fabrique de l'Histoire et donc ça veut dire que nous avons une certaine importance dans la médiatisation de ces questions. Merci en tous les cas, Hervé Lemoyne, d'être venu nous présenter cela. Et puis, dernier temps de notre émission de ce jour, ici à Blois, à l'auditorium de l'abbé Grégoire, avec vous, Victor Massé de l'Épinay. On s'est dit, tout compte fait, on vient, on va parler souvent de ce qui va se passer à Blois et pas de ce qui s'est passé. Et vous êtes allé hier, pendant toute la journée, vous promener dans le programme de Blois et vous avez ramené deux ou trois pépites.
Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Blois, pas seulement à la Halle aux Grains, pas seulement à la bibliothèque de l'abbé Grégoire, mais un peu partout. Alors donc hier, j'ai un peu crapahuté vers différentes propositions originales que le programme nous annonçait. J'ai commencé par une petite promenade qui m'a emmené sur la rive sud de la Loire, au fond d'une mignonne petite ruelle, dans un endroit qui s'associe pour la première fois au rendez-vous de l'histoire, le théâtre Mont-Sabré, accolé à une petite école privée du même nom que certains Blaisois connaissent peut-être. Un théâtre qui a été laissé à l'abandon pendant longtemps, puis qui a été repris à 2 ans par une association qui le fait revivre de façon très dynamique, m'ont dit les gens que j'ai rencontrés là-bas. Alors dans ce théâtre, il y avait une centaine de personnes, dont une bonne soixantaine d'élèves de lycée, et en particulier une classe de seconde du lycée Kernezec de Quimperlé. Et j'ai assisté à un très beau spectacle gratuit intitulé « Le carnet retrouvé de Monsieur Max ». Sur scène, un musicien et un lecteur. Le musicien, c'est Christophe Rosenberg, qui joue de la flûte traversière, du saxophone, des percussions et qui dialogue avec le texte lu par le poète et éditeur Bruno Doucet. Ce texte, ce sont des extraits, des morceaux choisis du dernier roman de Bruno Doucet, Le carnet retrouvé de Monsieur Max. Monsieur Max, c'est bien sûr Max Jacob, que l'on suit au cours de l'hiver 43-44, de son arrestation à Saint-Benoît-sur-Loire, jusqu'à sa mort au camp de Drancy. Bruno Doucet a imaginé que pendant ces quelques mois, le poète avait réussi à conserver, grâce à la bienveillance de certains geôliers, un petit carnet dans lequel il consignait ses pensées, son quotidien, ses réflexions sur sa condition de juif, sa foi catholique, sa famille persécutée, et se laissait aussi parfois aller à certaines rêveries poétiques. Le spectacle était très beau, très émouvant, m'a donné envie de lire ce roman, que je trouverai certainement après l'émission au Salon du Livre de la Lograin. J'en rappelle le titre, Le carnet retrouvé de Monsieur Max, aux éditions Bruno Doucet, dans la collection Sur le fil, une collection dédiée au destin de poètes qui croisent la grande histoire. Et j'en profite pour dire que l'un des romans de cette collection a remporté le prix du roman historique coup de cœur des lecteurs du CIC cette année à Blois. J'en donne le titre et l'auteur, Les obus jouaient à pigeon vol de Raphaël Jérusalmi. Il est question d'Apollinaire. Alors, quittant le théâtre non sabré, retraversant la Loire sur le pont Jacques Gabriel, je me suis rendu à l'INSA pour assister dans l'amphithéâtre Denis Papin à une visite virtuelle de la Maison de l'Histoire européenne qui ouvrira ses portes à Bruxelles au printemps 2017. Dans l'amphithéâtre voisin, une table ronde était consacrée à enseigner l'histoire de l'Antiquité aujourd'hui. La salle était comble. Pour le futur musée de l'Histoire de l'Europe, nous étions 11 en comptant le régisseur.
on dit généralement que l'Europe marche pas, mais effectivement, c'est un vote par les pieds.
Ça laisse un peu songeur quant à l'intérêt suscité par la construction européenne. Quant au musée proprement dit et à ses collections, j'attendrai pour en parler une visite moins virtuelle. Le musée sera ouvert le 25 mars ou le 9 mai prochain à Bruxelles. Et j'ai donc repris mon petit trajet et je suis allé à l'espace Quinière. Le programme annonçait bien la représentation de RPG 14 qui allait y être donnée, mais le plan du festival ne montre pas où est l'espace Quinière, que j'ai eu un peu de mal à trouver. Comme ont eu également du mal à le trouver les élèves du lycée Carnesec de Quimperlé que j'ai retrouvé là-bas.
Que vous suiviez.
Et qui ont fini par s'installer dans cette grande salle de 250 places pour assister à un spectacle. 4 écrans, un garçon qui joue à un jeu vidéo, un RPG, role-playing game. Dans le jargon des gamers, c'est ces jeux où on se promène avec un pistolet et on dégomme tous ceux qui se dressent devant nous. C'est donc un jeune garçon qui joue à ça, c'est un jeu pendant la guerre de 14, et tout d'un coup, les personnages du jeu se mettent à lui parler sur les écrans, les avatars, en fait, se mettent à lui parler et à lui raconter leur histoire. Un soldat allemand, un français, un anglais et un russe. Et le jeune garçon, d'abord hostile et méfiant, se met à dialoguer avec eux, puis il devient ces gens, non pas seulement un uniforme et un fusil, mais une histoire, une trajectoire, un destin, des sentiments. Et pendant que les soldats, eux, s'envoient des SMS depuis les tranchées. Donc ça peut sembler moralisateur ou drôle comme ça, mais ça fait beaucoup réfléchir. Le dialogue après avec la compagnie Métis qui propose cette pièce et les élèves a été très fructueux, très long, trop long même pour que je puisse rester jusqu'à la fin. Mais nul doute que nous retrouverons peut-être les élèves du lycée de Carnesac de Quimperlé ou les gens de la compagnie Métis dans un prochain feuilleton de Séverine Liattard sur l'enseignement de l'histoire.
Merci, voilà. Merci Victor Massé de la Vignée de nous avoir résumé votre journée d'hier ici à Blois. Nous allons vous préparer, Anaïs, allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir des petites choses tout à l'heure.
Je vois qu'on n'a plus du tout le temps, donc allez voir La nuit s'achève de Cyril Lotti ce soir à 21h à l'auditorium du Conservatoire. Un très joli documentaire où Cyril Lotti, incapable d'avouer son homosexualité à son père, réunit son amant et son père pour un voyage en Algérie sur les traces des ancêtres kabyles de son amant et de l'enfance pied noir de son père. Il y perdra tout. Malheureusement, l'histoire ne peut pas toujours tout régler.
Merci. Donc ça s'appelle ?
Ça s'appelle La nuit s'achève de Cyril Lotti et c'est ce soir à 21h à l'auditorium du Conservatoire.
Et puis de mon côté, je conseillerais à Hervé Mazurel d'aller voir ce qui a été préparé par l'école française d'Athènes, Partir en Grèce, des croisés aux réfugiés proposés par l'école française d'Athènes. C'est à 11h15 tout à l'heure, mais entre-temps, vous pourrez venir aussi ici voir l'émission d'Aurélie Luneau à 10h30 de Cause à effet, émission de France Culture sur les migrants du climat. C'est à 10h30 ici. Et puis demain, surtout, n'oubliez pas d'aller voir Jean-Noël Jeannet en direct d'ici, Concordance des temps. En Colombie, flux et reflux d'un peuple déchiré. Ça sera à 10h, entre 10h et 11h, avec Yves Saint-Jour, historien et diplomate. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Nous avions la technique avec nous Jean-Pierre Pernel, Christophe Goudin, Benjamin Thuot et Roland Dandalex. Et à la réalisation, Véronique Samuilov. Merci et bon festival.